La Cité internationale des arts et le Centre national des arts plastiques se sont associés pour créer un programme de résidence pour les commissaires d'exposition et critiques d'art de la scène française. Du réalise une série d'émissions avec les commissaires lauréats de ce programme. Entretien avec Baptiste Pinto, en conversation avec Thomas Conchou.
Baptiste Pinto, tu es éditeur, critique d'art et commissaire d'exposition indépendant. Tu co-diriges la revue annuelle Octopus Note et l'espace d'exposition 13 installé rue Morée dans le 11e arrondissement de Paris. En 2021, tu as fondé avec Alice Dussapin la maison d'édition Daisy, qui prépare sa troisième publication à ce jour, la nouvelle One Thing I Know de l'artiste américaine Patty Hill. Nouvelle qu'elle écrit à l'âge de 41 ans, avant de déclarer qu'elle quitte l'écriture pour se consacrer à la vie domestique. Tu mènes des recherches depuis plusieurs années autour de sa pratique et tu lui as consacré plusieurs expositions, comme à l'artiste Run Space Ampersand à Lisbonne et à la galerie R de Paris en 2020, avant de faire sa dernière exposition à 13 en 2021. Tu prépares également avec Daisy la publication d'un premier ouvrage consacré à sa collection de publicité pour aspirateurs, initiée au début des années 60 et entretenue jusqu'à sa mort en France en 2014. À la fin de l'année passée, tu présentais à 13, en collaboration avec Pascaline Morincombe et Fanny Schulman, une exposition personnelle de Zoé Beloff intitulée Parade of the Old New et qui présentait un panorama de peintures récentes sur carton, accroché comme une fresque, qui commentait les 4 années de présidence de Donald Trump. Tu mènes également un projet de recherche soutenu par l'Institut français autour du collectif Pajama, composé de Paul Cadmus, Jared French et Marguerite French, dont nous allons avoir l'occasion de parler plus en avant. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Est-ce que tu peux, pour moi, retracer un peu l'histoire de ton début de tes recherches autour de Patty Hill et qui t'ont amené à faire tous ces projets autour de son travail, que ce soit son travail plastique, pictural, poétique?
Patty Hill, j'ai découvert son travail grâce à l'exposition qu'avait organisée Essex Street, la galerie à New York. J'avais vu des images, j'étais pas allé là-bas. Et c'est les premières photocopies d'elle que j'ai vues qui sont très belles et qui m'ont marqué. Et à cette époque, on préparait un numéro du coup d'Octopus, la revue. Le neuvième. Et je me suis dit que ça pouvait être une des figures du numéro. Donc j'ai commencé à faire des recherches à la bibliothèque Kandinsky, à la BNF, à Richelieu, à l'INHA. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des très belles choses qui étaient conservées là. Beaucoup de textes en anglais, des poèmes que j'avais du mal à comprendre, mais j'avais l'impression que c'était beau. Il fallait, voilà. Et voilà. Donc ça a pris un peu l'allure d'une enquête, enfin dans des proportions vraiment. Mais parce que j'ai trouvé un site internet qui s'appelait Les Amis de Patty Hill, qui était à Sens. Donc je comprenais pas très bien. Et voilà. Très vite, j'ai été contacté du coup après leur avoir écrit. Par Nicole, qui a été une amie de Patty Hill et son assistante à la toute fin de sa vie, les 8 dernières années de sa vie, lorsqu'elle vivait à Sens, en France. Et c'est vraiment grâce à elle, grâce de manière très pratique à la collection d'œuvres qu'elle a gardée chez elle et de livres, d'archives, gardait quand même pas mal de choses chez elle. Et grâce aussi à ses souvenirs et à l'approche hyper sentimentale qu'elle a du travail et de Patty Hill, que je suis rentré dans le travail et que j'ai commencé à faire des recherches. Et voilà. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir une bourse du CNAP qui m'a permis d'aller aux États-Unis, vraiment peu de temps avant le Covid, pour aller dans les archives de Patty Hill qui sont conservées à Arcadia, c'est une université près de Philadelphie. Et donc ce voyage-là, ça a été un peu le deuxième moment très important des recherches. J'y suis pas resté très longtemps. Mais les archives sont dans un état de structuration. qui laissait beaucoup, beaucoup de liberté pour aller très, très vite dans les archives, ce qui n'est pas le cas d'autres archives aux États-Unis dans lesquelles j'ai pu aller, notamment de Pajama. Tu as tout un système de classification, tu dois commander des boîtes, tu peux regarder 2 boîtes par jour. Donc à la fin, tu as besoin de rester sur place très, très longtemps pour voir peu de choses. Là, ce n'était pas le cas, donc c'était assez génial. Et voilà, donc ce voyage-là aussi, il avait pour but de préparer les expositions que je savais que j'allais organiser à Paris et à Lisbonne. Et voilà, du coup, c'est des expositions qui ont été retardées beaucoup, 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 je crois. Je ne me souviens plus de combien de temps. Enfin, comme beaucoup de gens, mais voilà. Donc ça a été des recherches trop bien, passionnantes à faire. Et assez satisfaisante parce qu'elles étaient faites moins dans la perspective de faire des, par exemple, de faire une monographie ou de publier un livre vraiment extrêmement scientifique sur la pratique, que de faire des expositions qui seraient des formes ouvertement pas arbitraires, mais qui témoignait d'une recherche qui était en train d'être construite, quoi. Parce que là, il y a des expositions qui sont faites en dehors de celles que j'ai faites, moi, sur Patil. Et il y a plein de projets. Là, il y a Fiona Villemer qui fait une exposition aussi au Bain Douche d'Alençon, avec Charlotte Ouett. Et c'est trop bien que tout ça ait lieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Que pour l'instant, personne n'a vraiment pris en charge l'étude exhaustive des archives. Lire tous les textes, parce qu'il y a énormément de choses, de manuscrits, donc ça, faut que quelqu'un se coltine ça. Ça va mettre du temps, parce qu'il faut, voilà. Et à partir de là, je pense qu'il pourrait y avoir des études plus scientifiques. Mais voilà, donc moi, c'était plutôt agréable, parce que ça n'avait pas de vocation directe à avoir ce point de vue-là. Plutôt à construire un savoir partiel et en plusieurs temps.
Et les archives qui sont conservées en France, elles sont quoi? C'est des collections personnelles, en fait?
C'est une partie à la mort de Patil. Elle a essayé de faire un don à la BNF, qui n'a pas été acceptée, parce qu'elle a produit énormément d'œuvres. Et puis à la fin de sa vie, elle n'était pas très connue. Donc, elle a produit énormément d'œuvres, elle a beaucoup, beaucoup écrit, des romans, des nouvelles, plein de journaux, la quantité d'archives est considérable, donc pour qu'une institution comme ça prenne ça en charge, c'est des années de travail, beaucoup d'argent engagé, donc ils ont décliné, donc elle a tout légué à sa fille et à Nicole, qui ont elles-mêmes organisé le transfert aux États-Unis dans l'université, et au moment du transfert, Nicole a gardé une collection personnelle d'œuvres qu'elle voulait garder. En dehors des œuvres, tous les documents qu'elle a, les archives les ont aussi. Et les œuvres, souvent, comme c'est des photocopies, la très 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 grande partie des œuvres de Nicole, les États-Unis l'ont aussi. Okay. Pas exactement la même, du coup, mais voilà.
Et sur le site de Daisy, donc vous allez publier cette nouvelle? Vous avez déjà publié cette nouvelle?
On va la publier. Ça aussi, ça a mis longtemps. On va la publier. Mais c'est pas une nouvelle, c'est un roman. Mais c'est un court roman. Ça fait 100 pages. Et voilà, c'est le troisième roman qu'elle a écrit. Et c'est génial.
Et vous dites sur le site qu'elle... le troisième et dernier roman avant qu'elle déclare arrêter l'écriture pour se consacrer à la vie domestique, mais de ce que tu as l'air d'en dire, elle a continué à écrire plus ou moins toute sa vie.
Ouais, ça c'est un peu... cette donnée-là dans la vie de Patil, donc elle est hyper importante. Enfin, elle a été hyper importante pour moi quand j'ai fait les recherches. C'est-à-dire que Bon, il lui arrive plein de choses avant l'âge de 30 ans. Elle est élevée seule par sa mère. Elle quitte très vite sa mère pour ensuite aller vivre à New York toute seule, sans connaître grand monde. Par chance, elle tombe sur la directrice de Harper Bazaar, qui lui propose d'être mannequin, elle devient mannequin. Voilà, donc c'est un truc qui lui permet de devenir indépendante financièrement, de voyager beaucoup. Elle vient souvent en France, il lui arrive plein de trucs. Elle écrit des livres qui ont quand même un succès assez important, critique et, comment on dit, public. Voilà, et puis One Thing I Know, c'est le dernier roman qu'elle publie à ce moment-là. Elle est enceinte, elle va accoucher d'une fille qu'elle a avec Paul Bianchini, qui est un galeriste d'art à New York, un Français, un grand bourgeois, enfin, vient d'une très grande famille. Mais il n'a pas beaucoup d'argent. En tout cas, il le gère très mal. Et tout ça pour dire que oui, qu'à ce moment-là, elle dit arrêter d'écrire, voilà ce que tu viens de dire, pour se consacrer à la vie domestique. Et effectivement, pendant 13 ans après, elle publie rien, mais elle continue à écrire, mais elle publie plus rien. Et au bout de ces 13 années, elle publie un recueil de poèmes, mais à compte d'auteur, qui s'appelle Slave Days, et là, dans lesquels il y a ses premières photocopies. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'elle commence vraiment à faire des œuvres. Donc elle a 50 ans. Donc ce roman-là, il est important. Enfin, la donnée, voilà, cette affirmation d'arrêter d'écrire pour se consacrer à la vie domestique, c'est quelque chose qu'on va enlever du site internet. Parce que c'est hyper important, mais c'est quelque chose dans les recherches que j'ai faites, que j'ai toujours eu du mal à évoquer de manière en me sentant confortable. Parce que c'est vrai et c'est pas vrai, et je pense qu'il faut donner beaucoup plus de détails sur sa vie pour comprendre vraiment ce que ça représente. Notamment ce que tu viens de dire, le fait qu'elle a continué tout de même à écrire, et que c'est aussi pendant cette période qu'elle commence à faire des photocopies qui vont devenir une pratique quotidienne, qu'elle est revenue aussi sur cette affirmation-là dans plein de textes avec des nuances et plein de variations, et voilà, et à la fois c'est extrêmement séduisant, faut le dire, quoi, de construire quand on s'attaque comme ça à la vie de quelqu'un qu'il faut retracer pour la rendre publique, c'est hyper séduisant de trouver comme ça des espèces de jalons hyper forts dans une vie qui... Voilà, et notamment ce qui m'a beaucoup encombré, c'est voilà, ce lien aussi que ça faisait avec la souffrance et la pratique artistique. Qu'un truc en ce moment, voilà, que j'essaye vraiment de... J'avoue, j'en peux plus en ce moment. Et je... Ouais, je sais pas, j'étais au Beaux-Arts là, avec Charlotte Ouette, qui est une artiste et une amie. On a fait un workshop. Et voilà. Et je me suis rendu compte, en pensant à Patty, notamment avec elle, que voilà... qu'il fallait quand même éviter, je crois, quand c'était vraiment pas nécessaire, de lier la pratique artistique à une souffrance personnelle. Je crois que c'est... Enfin, j'en peux plus. Je crois que ça reconduit une sorte de romantisme qui est vraiment mal placé. Je crois qu'il fait... qu'il produit pas toujours des choses bien, au-delà de la qualité du travail. Et notamment au Beaux-Arts, dans un contexte où du coup j'étais confronté à des gens beaucoup plus jeunes. Enfin, pas beaucoup plus jeunes que moi, mais voilà, dans une situation différente. Franchement, j'avais envie de leur dire, genre, faut arrêter, quoi. Enfin, il y a d'autres moyens, il y a d'autres manières de travailler, tu vois, si tu veux peindre des fleurs ou comme Patil, photocopier des poireaux et des soutiens-gorge. Et des marguerites pendant un an entier. Voilà. Du coup, ça pour dire que cette phrase, il faut l'enlever du site internet, parce que je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir mis ça.
Oui, puis est-ce qu'on est aussi dans un moment où il y a évidemment une attention médiatique, mais aussi dans nos cercles de praticiens, travailleurs, travailleuses culturelles, sur les personnes qui ont quitté la pratique,
oui.
Ou qui se sont enfuis, quoi, d'un lieu de production. Et est-ce que ça participe à mythologiser un peu ces mouvements-là, alors que pour avoir aussi lu Slave Days et ce qu'on a l'impression qu'elle dit, ou peut-être qu'elle le dit pas d'ailleurs, peu importe, c'est qu'en fait sa pratique se transforme, elle change de manière de produire. Mmh. Ou elle investit le texte d'une manière différente.
Oui. Non, mais bien sûr. Puis il y a une phrase, j'aime trop, un texte que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps d'elle, où elle dit, quelques années après avoir écrit Slave Dead, elle dit qu'elle retombe sur le livre, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle l'a appelé comme ça, parce qu'elle dit, bon, après tout, ces années-là. Elle parle notamment de l'emploi du mot slave, et elle dit qu'elle admet que c'est quand même peut-être pas le bon terme. Au moment où elle écrit ce texte, quand elle y repense, elle pense plutôt aux confitures de fraises qu'elle faisait qu'à une vraie souffrance psychologique.
Et donc ça fait partie des expositions que tu programmes à 13 depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises. Tu as commencé à... Tu as rejoint un peu la...
13, je ne sais plus quand j'ai rejoint. J'ai rejoint quand ils ont décidé... Donc, Pascaline, Morin Combe, Fanny Schulman, Olga Rosenblum et Galien Desjans, d'ouvrir le collectif à d'autres gens. Donc, on est 12, 10, je sais plus. Je suis arrivé dans 13, mais j'ai rien fait, je crois, pendant un an ou deux. Avant de faire une projection. Et puis après, il y a eu peut-être quasiment un an entre la projection et l'expo. Ce qui est en soi génial. Enfin, d'avoir cette liberté d'être dans un endroit sans rien y faire, enfin, sans devoir matérialiser rien. De pouvoir juste assister aux réflexions qu'ont les autres sur des projets. Et voilà, de ne pas être sollicité. Voilà. D'admettre que quand on n'a pas de désir, faut pas travailler. Puis il y a des choses qui mettent longtemps à se fabriquer. Donc, c'est un super lieu. Et je crois qu'on a trouvé maintenant une manière de travailler ensemble que j'aime beaucoup. Qui est pas du tout. Qui repose au fond sur un truc un peu idéal pour moi, qui est de travailler à plusieurs, mais de jamais... par exemple, quand quelqu'un a un projet d'expo, bon, on le soumet aux autres, dans le sens où on le présente aux autres en disant que ça va être super, que c'est les raisons pour lesquelles on a envie de le faire. Mais à moins vraiment de soulever quelque chose de très, très problématique, personne jamais oppose quoi que ce soit. Il s'agit plutôt de proposer son aide. Et ça, c'est très, très agréable. Je pense que pour le programme même, ça construit une sorte de... Enfin, une grande ouverture, quoi, parce qu'il y a des projets, moi, auxquels je participe pas du tout, que j'aurais jamais, jamais l'idée de faire. Et c'est assez... Je pense que c'est assez sain et super.
Et la dernière exposition que vous avez présentée en 2021, donc c'est The Abelof, c'est cette... grande fraise de carton qui s'enroulait dans tout l'espace et même dans la vitrine.
Ouais. Bah ça c'était super, c'était pour le coup c'est Fanny Schulman qui voulait faire cette expo, enfin travailler avec Zoé depuis longtemps. Je crois que ça fait 5 ans qu'elles se connaissent et qu'elles discutent ensemble de faire quelque chose. Et c'est un projet qui demandait pas mal de travail logistique, c'est-à-dire trouver de l'argent pour faire venir les œuvres, pour faire venir Zoé, pour faire en sorte que son voyage soit intéressant. Voilà, je sais pas, on essaie d'organiser des conférences, des projections. Donc ça demandait du temps, et Fanny, puis elle travaille à temps plein ailleurs. Donc elle n'était pas... donc avec Pascaline, on l'a rejoint, et c'était génial de travailler là-dessus. Moi, je ne connaissais pas du tout son travail avant que Fanny m'en parle et me montre. Et voilà. C'est quand même une artiste assez géniale. Qui a une manière de parler de son travail qui est très très particulière. Pour le coup, même si son travail part de choses très conflictuelles, c'est pas du tout... C'est hyper militant, engagé. c'est, je sais pas, elle a une manière de parler, de la manière même qu'elle a de fabriquer les œuvres, qui est hyper réjouissante. Parce que dans les deux cas, elle essaye jamais de mentir sur ce que c'est. Enfin, je sais pas, quand elle parle de ses œuvres, elle dit que c'est du dessin et des peintures sur carton. Et quand on lui parle de sa place, enfin, ou de la place de son travail dans une perspective politique, elle est aussi très modeste et réaliste sur ce que ses œuvres peuvent produire. Notamment ce qu'on a montré. Enfin, et puis elle revient souvent notamment aux œuvres qu'elle fait, qui sont des pancartes de manif qu'on a montrées chez Tresse dans la vitrine, et dont la fresque qu'on a présentée est un peu le prolongement de ça. C'est le même support, c'est la même technique de peinture. Après, c'est pas le même format, c'est pas du tout le même engagement, même technique et de temps. Mais ouais, c'est une super artiste. On aimerait bien faire un livre avec elle, avec Fanny et Pascaline.
Oui, parce que Daisy, en fait, c'est une sorte de continuité entre toi, tes projets de recherche et ceux d'Alice, puisque peut-être le deuxième ouvrage que vous avez publié tourne sur des recherches d'Alice sur...
Wolfgang Storchle.
Merci.
Encore un nom imprononçable, mais... ouais, alors Alice, je l'ai rencontrée par Octopus, qui est la revue qu'on a ensemble, et à laquelle collabore aussi Alice Pialou et Martin Laborde. Mais Alice Pialou, elle travaille à Beaubourg. Martin, lui, il est artiste. Donc, Alice et moi sommes un peu les deux seuls de la revue à avoir prolongé l'intérêt pour l'édition dans des projets. Elle a longtemps travaillé avec Christophe Davietteri, qui est un éditeur, moi pour Macula. Et là, on s'est dit que, ouais, qu'on aimerait bien travailler ensemble de manière plus précise aussi sur des projets de livres qu'on avait au fond. Depuis quelque temps, elle, Wolfgang Sorschle, un autre artiste sur lequel elle travaille qui s'appelle Ben Porter, et moi, Patil, Pajama, après le temps qu'il aura fallu prendre pour faire tout ça. Et voilà, du coup, on a dû trouver un nom, on a trouvé Daisy, et voilà, on a fait un site internet, on a publié les premiers livres, et là, on prépare d'ouvrages, c'est hyper excitant à faire. Ça demande autant de travail, c'est pas logistique le bon terme, comment on dit, pour trouver des sous, faire la distribution, enfin, je connais plus le terme, bon, c'est pas grave, logistique, disons. Mais c'est une période assez excitante, parce que pour l'instant, on a quand même... Enfin, en plus, comme il y a pas, on a trois ouvrages dans le catalogue, mais du coup, le catalogue peut aller un peu où on veut, et puis on peut construire plein de choses. Donc, c'est aussi un moment où on peut concrétiser plein de projets qu'on a, ou même des relations avec des artistes qu'on a depuis longtemps, et leur donner une forme en proposant de faire un projet de livre. Donc, c'est assez excitant.
Et pour toi, c'est la forme, la méthodologie de travail éditorial qui vient en premier, quand tu parles de ta recherche sur Pajama, parce que la motivation, c'est le fait de publier un ouvrage sur cette recherche.
Alors, Pajama, un ouvrage, ce serait génial. Mais c'est aussi vraiment un point de vue pratique. C'est-à-dire que les archives de Pajama, pour le coup, je n'ai pas trouvé d'assistant dans une ville paumée aux États-Unis qui a conservé toutes les photos. Donc j'ai affaire à des institutions qui sont de grosses institutions, dans la Beinecke, la librairie de Yale, le Smithsonian Museum à Washington, qui probablement n'accepteront pas de m'envoyer les œuvres pour les présenter chez 13. Voilà, il faudrait soit être en contact avec une grosse institution, soit faire un livre. Et j'ai jamais été en contact avec une grosse institution. Enfin, tous les projets que je fais sont des projets indépendants. Donc, c'est peut-être quelque chose qui viendra au fur et à mesure du projet. Mais pour l'instant, j'ai plutôt besoin de m'imaginer faire un livre. Parce que c'est une manière aussi de pas travailler dans le vide. De pas travailler 3 ans sur des recherches en imaginant autre, enfin quelque chose qui demanderait encore 3 ans pour être réalisable. Là, si je vais aller en septembre aux États-Unis pendant plusieurs mois, faire les recherches, normalement, si tout se passe bien quand je rentre, j'ai assez de matériel pour faire un livre. Après, il faut trouver l'argent pour le faire. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose qui est quand même plus facile à imaginer pour moi que de faire une expo. Je sais pas où d'ailleurs. C'est pour ça que, ouais.
Donc là, tu as plusieurs mois pour sortir 2 boîtes par jour.
Là, j'ai plusieurs mois pour sortir 2 mois par jour. Mais j'y suis déjà allé, donc j'ai déjà vu pas mal de boîtes. Mais ouais, il y a plusieurs endroits dans lesquels je suis jamais allé. Il faut que j'aille voir. Voilà. Mais je vais pas passer 3 mois. Peut-être. Enfin, je sais pas. Voilà. Il y a d'autres projets aussi auxquels j'ai envie de. Enfin, d'autres archives, quoi. Que j'aimerais bien visiter.
Et peut-être qu'on peut parler un peu pour clôturer notre discussion de ta pratique de film. Et je ne sais pas comment tu l'appelles à titre personnel, de cinéaste, de vidéaste, de pratique filmique. De...
J'adore le cinéma. Voilà. Peut-être. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience concrète d'un tournage il y a 2-3 ans. J'ai tourné dans un film. Voilà, donc quand il a été question, j'ai organisé chez 13 une exposition sur ma grand-mère l'année dernière qui fait des broderies sur des serpillères et qui écrit des poèmes et des contes qu'on va publier d'ailleurs. Et voilà, dans le cadre de l'exposition, je me disais, j'avais envie qu'il y ait un film, j'avais envie qu'on la voie, j'avais envie qu'on l'entende, c'est quand même un personnage. Notamment, voilà, parce que si on lit les poèmes sans la voir, il y a quelque chose, je pense. On passe à côté d'un truc qu'on peut pas très bien comprendre. Et voilà, du coup, je suis allé tourner des images avec l'idée de faire un film, mais sans savoir vraiment ce que ça pourrait être. On m'a prêté une caméra et un micro. Et voilà, j'ai tourné pendant 4 jours. J'ai longtemps essayé de faire le montage tout seul avant de comprendre que c'était absolument impossible, trop compliqué. Et voilà, j'ai rencontré une fille que j'adore qui s'appelle Laura Rius, qui a fait tout le montage avec moi. Et c'est devenu un film d'une heure et quart pendant le montage, parce que finalement, c'est un film qui repose sur de longs entretiens. Donc, bon, un truc qui dure 15 minutes, ça n'avait plus de sens. Et voilà, du coup, c'était assez... Enfin, ça s'est fait comme ça. Et puis, j'ai envoyé là-haut, dans un festival, et ça a été pris. Donc, je l'ai vu hier au cinéma pour la première fois. J'étais bien content. Assez anxieux, j'ai perdu beaucoup d'eau, j'avais les mains bien moites. Mais voilà, c'était bien de voir ça sur grand écran.
Ta grand-mère, elle l'a pas vu encore? Elle l'a vu?
Si, elle l'a vu. Ouais, elle l'a vu. Elle l'a vu et je crois qu'elle l'a vu il y a longtemps et je pense qu'elle a oublié le film. C'est-à-dire que quand elle l'a vu, je sais pas d'ailleurs si elle aimait le film. Elle a juste regretté ce qu'elle avait filmé avec un tablier pendant une grosse partie du film, parce que c'était on mange. Et voilà, elle a regretté d'être filmée comme ça parce qu'elle se trouvait moche et grosse. Et on la voit beaucoup boire aussi, puisqu'on buvait. Donc elle a eu peur d'être. Qu'on ait l'impression qu'elle était alcoolique. Voilà, ça a été les seules craintes et pas du tout sur le contenu du film. Et là, quand on en reparle, je crois qu'elle a vraiment oublié. En grande partie, ce dont il était question. Mais c'est pas... Elle aime le film par extension de son amour pour moi. Et voilà, c'est ça qui compte.
Vous êtes allés voir ensemble, du coup, hier, c'est ça?
Ah non, non, elle habite dans la Drôme, oui, dans une montagne. Elle bouge plus... Elle bouge pas du tout, non. Non, non, je l'ai apporté chez elle sur un écran d'ordinateur.
Ok, super. Et t'as des projets de... C'est des choses que maintenant t'envisages comme... C'est une pratique que t'envisages intégré un peu le reste de tes méthodologies de travail ou c'est un one shot et t'es content de l'avoir fait comme ça?
Non, je pense que quand j'aurai l'occasion, j'y reviendrai. Mais c'est quand même assez dissocié du travail de sur Pajama ou Patil, c'est quand même quelque chose de différent. Mais c'est assez excitant. Là, j'ai travaillé sur un autre film cet été, pas du tout de moi, mais qui était, c'était assez excitant à faire aussi. Donc c'est, en soi, le tournage, c'est quand même quelque chose d'assez excitant, qui est beaucoup moins solitaire que le travail de commissariat ou d'édition. Même si moi, je travaille vraiment quasiment jamais seul. Enfin, ouais, au sein de la maison d'édition de 13. Mais voilà, le tournage, c'est quand même assez joyeux, quoi. Donc, ce serait dommage de ne pas en refaire.
Merci, Baptiste.
Merci, Thomas.